Bonsoir Bruno Gollnisch, comment allez-vous ?
Bonsoir Serge, je vais très bien, je vous présente tous mes vœux.
Vous avez un costume absolument magnifique.
Je crains
qu'il doit aller très bien avec votre voiture rouge.
Imagine.
Et le brushing que vous oubliez.
Je vois que vous avez une saine activité, vous écoutez les chants de la liturgie slavonne.
Voilà.
Je ne connais rien de plus beau que l'hymne des chérubins.
Ah, vous allez peut-être nous en chanter un petit morceau, non ?
Si je que l'ouvrimi.
C'est beau.
C'est quand même le Ding Shuai
No Bra. Il n'y a rien à faire.
Maladiette.
Maladiette. C'est le seul avec le chef qui arrive à l'improviste comme ça. Et ex-abrupto. Non, c'est pas ça que je voulais dire.
Et
ça,
de recherche.
Sans accompagnement musical.
Ah, a cappella.
A cappella, voilà. Bien,
c'est le nous sommes de la liturgie orientale, c'est a cappella, justement.
Ah ben ça, oui, bien sûr. Voilà, alors, vous arrivez très très bien, parce que c'est juste au moment où nous allions commencer une petite revue.
Sur Radio Courtoisie.
Sur Radio Courtoisie, oui. Une petite revue de l'actualité, non pas de l'actualité présente, mais de l'actualité passée, c'est-à-dire de l'année 2006. Et on fait un commentaire libre. Le commentaire est libre ici.
Enfin, profitons-en.
Soigneusement encadré quand même par des règles que je ne vous enseignerai pas. Vous avez payé. Non, vous n'avez pas encore payé pour les connaissances.
Votre dette à la société, Bruno Gollnisch.
Non, je suis en. Mon exécution a été différée.
Oui. Le 1er janvier 2006, une trentaine à une quarantaine de jeunes gens, répartis en petits groupes de 5 ou 6, étaient en train d'importuner les voyageurs, passant de voiture en voiture dans le TER, qui transportait environ 600 personnes entre Nice et Lyon, à faire des agressions du train Nice-Lyon du 1er janvier. C'est intéressant cette histoire parce que, d'une part, on en a parlé beaucoup sur l'instant, puis après on n'est pas revenu.
Après 15 jours de réflexion, c'est ça qui est intéressant. Oui. On vient de nous dire que tout allait très bien, Madame la Marquise, et qu'il n'y avait pas eu d'incident grave. Il faut attendre 15 jours pour être informé de ce genre
d'incident. Ensuite, on nous a menti sur la réalité des faits. Ensuite, on nous a expliqué que bon, c'était pas si grave que ça, alors que c'était extrêmement grave. Il s'agissait pas d'importuner, il s'agit d'une véritable attaque renseignée avec tentative de viol et tout et compagnie et tout. Mais le plus frappe, moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est le fait que je pense souvent à ça. En France, tous les ans, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. On voit des tas de gens se réunir autour des monuments aux morts des villages avec force écharpe, tricolore, couronne, drapeau, musique, chant patriotique et tout, qui explique que, non, de là, si les nazis reviennent, ils vont comprendre leur douleur. Et ça va pas se passer comme ça, parce qu'on s'est fait avoir une fois, on se fera pas avoir deux, et on verra ce qu'on verra. Mais quand 600 personnes se trouvent face à une trentaine de merdeux, alors là, tout le monde se planque sous les sièges, et ces gens-là vous disent après, Pétain était un salaud. Pétain a signé l'armistice, il a baissé culotte devant l'Allemand. Alors évidemment, Pétain était un salaud, je suis bien d'accord avec eux. Seulement, on ne peut pas dire qu'ils sont bien placés pour porter ce genre d'accusation, étant donné qu'ils se conduisent exactement de la même manière, et même pire. Parce que la différence quand même entre les 30 merdeux, et l'armée allemande, bah, c'est la différence qu'il y a entre 30 merdeux et une armée de métier, quoi. Hein, je sais pas si je me fais bien comprendre. Et que c'était un armistice négocié. Alors que la seule chose que peuvent négocier, qu'ont négocié les types qui étaient dans ce train, c'est tu peux tenter de violer ma fiancée. Du moment que tu me mets pas une paire de claques, je t'embêterai pas.
Il faut quand même dire, Serge, comme on le dit à chaque fois, que si les gens se défendent, c'est eux qui seront inculpés et emprisonnés, s'ils cassent un ongle à un voyou étranger.
Ben, ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est que
Bruno Gollnisch,
ceci aurait dû interrompre l'expérience. du trajet préférentiel qui est donné sur quel critère, du tarif préférentiel qui est accordé sur quel critère, on ne sait exactement, d'un ou deux euros pour le trajet Nice-Lyon. Moi, à l'époque, j'ai fait demander par le Front National de la Jeunesse, dans une lettre fort courtoise qui a été envoyée à la direction de la SNCF et au Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai fait demander des billets à ce tarif et ces jeunes gens ont dit que désireux d'assister à une de nos manifestations, ils se rendraient de Lyon à Nice ou de Nice à Lyon et que il n'y avait aucune crainte à avoir avec eux, ils se tiendraient parfaitement bien, ils n'importuneraient pas les voyageurs et ils ne détérioreraient pas le matériel et qu'ils demandaient simplement à bénéficier, étant jeunes aussi, mais jeunes français, c'est peut-être une circonstance aggravante, je sais pas, qui demandait à bénéficier du même tarif. On attend toujours la réponse, de l'un comme de l'autre. Et la seule réponse a consisté à rééditer la même opération criminelle, mais cette fois en kikiner, pour ne pas dire plus, d'honnêtes pères de famille qui sont des policiers, qui sans doute sont là pour être mobilisés quand il le faut, mais là, on en a mobilisé des centaines pour assurer la sécurité de cette opération. Bon, alors que il est évident qu'après une affaire comme celle-là, la réaction saine, c'est de dire, c'est fini, il n'y aura plus de billets offerts par les collectivités locales.
Si on peut leur offrir des billets d'avion,
des billets de bateau, pas dans le même sens.
On peut citer en contre-exemple le centre de Los Angeles, qui est toujours, à ma connaissance, 10 ans après les émeutes qui l'ont incendié et ravagé, les Américains, les autorités américaines l'ont laissé en l'état. Pour délivrer sans doute un message du style, vous savez brûler, vous savez casser, est-ce que vous savez reconstruire ?
Et apparemment non, ils ne savent pas.
Apparemment non.
Affaire suivante.
En 2006, le président, le 1er janvier 2006, le président Jacques Chirac a profité de son allocution traditionnelle pour présenter ses vœux. Pour prôner le retour à un patriotisme moderne. Vous vous souvenez de ça ?
Non.
Il avait prôné le retour à un patriotisme moderne. Et là, le dernier coup, il a fait part du fait qu'il aimait passionnément la France. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est un scoop. Mais c'est intéressant de savoir que ce type aime passionnellement la France, parce que s'il ne le disait pas pour le jour où il présente ses vœux, on pourrait assez facilement en douter, étant donné ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire maintenant depuis 11 ans, 15, bientôt 12 ans, enfin au pouvoir comme président. Alors, en fait, on a l'impression que c'est ce qu'on appelait dans le temps le représentant placier. Il passe tous les ans, il vend ses brosses, il dit « mais les brosses de l'année dernière sont les mêmes que celles de cette année, mais elles doivent être un peu usées, je vous revends un nouveau jeu de brosses patriotiques. »
Puis il en vend à l'étranger, des brosses.
Et alors, pour vous montrer à quel point l'actualité change, en 2006, les traditionnelles violences urbaines, les traditionnelles, comme on dit en Alsace, qui accompagnent la nuit de la Saint-Sylvestre, ont causé la destruction par incendie de 425 véhicules contre 333 l'an dernier. 382 interpellations ont été effectuées et 25 000 policiers avaient été mobilisés pendant la nuit. Alors moi, je trouve que pour ce prix-là, ils peuvent laisser les policiers réveillés de chez eux. De toute façon, ça ne pourra pas être pire. Mais, comme dit Sarkozy, on progresse tous les ans. Hein. Ça va de mieux en mieux. En réalité, tous les ans, on voit exactement la même chose se passer, sans le moindre progrès. Là, on en a la preuve, quand on regarde ce qui se passe le 1er janvier, il y a 400 voitures qui brûlent, chiffre officiel. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un chiffre qui est totalement inventé, puisque c'est toujours le même. Ils ne prennent même pas la peine d'améliorer leurs mensonges.
C'est quand même... vous citiez ironiquement, je le révèle aux éditeurs, un commentaire, une légende de photo dans le Parisien d'hier, 2 janvier. On voit une voiture brûlée et la légende c'est « Les années passent, mais les traditions demeurent à Strasbourg, qui a vu 28 véhicules incendiés la nuit de la Saint-Sylvestre. » certains des incendiaires avaient 11 ou 12 ans.
Ce qui est fâcheux, c'est le mot tradition. Et j'entendais, je ne sais plus sur quelle radio périphérique, un historien, il y a quelques jours, expliquer qu'au Moyen-Âge, au moment des fêtes, on brûlait les chars, etc. On commence, ça y est, à trouver déjà une connotation historique à tout ça. Donc,
C'est dans la tradition. Là, j'ai sous les yeux un magazine qui s'appelle Le Chêne, magazine du mouvement national républicain, avec une très belle photo qui, je dois le dire, me remplit de bonheur et d'un bonheur hilar. Parce que, hilar, je signale au préfet Mutz que c'est pas la peine d'envoyer ses flics, ça n'a rien à voir avec la soupe au cochon. Nous voyons sur cette photographie Jean-Marie Le Pen souriant, Bruno Maigret souriant, Madame Maigret souriant et Madame Le Pen souriante sur le perron de
Montretout.
Et Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen se serrant la main. Alors si je me souviens de certains événements qui se sont passés dans une autre existence, et qui m'ont valu, qui ont failli me valoir, étant donné la position de bon sens que j'avais adoptée.
Les mines de sel.
Ben, les mines de sel, oui, mais surtout la tente rouge sur les bords du lac Léman, parce que pour un peu, le journal était mort. Je dois dire que je suis ravi de voir que finalement j'avais raison 6 ans avant tout le monde, comme d'habitude. Et donc je voudrais vous demander tout simplement ce que vous en pensez à titre personnel de ce rapprochement, de cette... Est-ce qu'on peut d'abord vraiment parler de réconciliation ?
Oui, je crois. Ça n'est pas si facile que cela, pour être très franc, parce que on ne peut pas faire que le passé n'ait pas existé. Et je pense que l'opération de 98 a été très douloureuse, qu'elle n'a pas été bénéfique à la cause nationale, indiscutablement. Elle a été la cause de beaucoup de déchirements, certainement aussi d'un retard dans notre progression, mais bon, le problème c'est de voir comment on envisage l'avenir. Moi j'ai dit très clairement, je considère que le Front National est une organisation hiérarchique, il y a un président qui se trouve être également le candidat national et absolument indiscutable compte tenu des résultats qu'il a déjà obtenus, ne serait-ce que pour cette raison-là, mais aussi pour ses qualités personnelles considérables, pour l'ancienneté de son combat, pour la fermeté de ses convictions, pour le courage et la lucidité qu'il a manifesté, et par conséquent, c'est ce président et ce candidat qui se trouvent être la même personne, c'est à lui, en l'occurrence, de décider. Je crois que Jean-Marie Le Pen est un homme loyal. À partir du moment où il avait lancé un appel à l'Union patriotique, qu'il aurait pu ne pas lancer, qui ne présente pas évidemment que des avantages. Mais à partir du moment où il a lancé un appel à l'Union patriotique, ça n'était pas pour repousser du pied ceux qui venaient pensant saisir la main tendue. Bon, par conséquent, c'était une exigence d'abord de la loyauté. Parce que s'il avait lancé ce thème de l'union patriotique, et puis s'il avait dit ensuite « ben non, moi je ne suis pas intéressé par tel ou tel ralliement, je fais passer les griefs, serait-il légitime que j'ai avant l'intérêt national et avant l'engagement que j'ai pris », je pense qu'on aurait été fondé à le lui reprocher. Par conséquent, c'est très bien ainsi. Puisqu'il l'a décidé, ça n'est pas sans difficulté. Je comprends évidemment ceux de nos amis qui se sont trouvés un temps dans des circonstances extraordinairement difficiles, extraordinairement douloureuses, qui ont été privés des maigres moyens qu'ils avaient pour mener le combat, par exemple dans leur département, et qui ont eu le sentiment quand même d'être poignardés dans le dos, qui ont eu un certain nombre de griefs. Je comprends qu'il soit toujours difficile d'oublier cela, peut-être d'ailleurs de part et d'autre, parce que tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais complètement blanc, complètement noir d'un côté. Et je crois que la démonstration qui a été faite, là, c'est celle de la primauté de l'intérêt national. le pays vit, notre pays vit une situation extrêmement douloureuse, extrêmement grave, avec un système politique qui gère la décadence, et qui ne gère que cela, et qui gère très mal par conséquent, mais qui défend ses intérêts d'une façon absolument féroce. Il faut combattre ce système, il faut arriver à proposer aux Français autre chose, et pour cela, nous avons besoin absolument de tout le monde. Moi, je souhaiterais, il était question tout à l'heure de M. de Villiers qui avait, sur l'agitation là, des associations gauchistes en matière de logement, les mêmes positions que Jean-Marie Le Pen, ou Jean-Marie Le Pen les mêmes positions que Philippe de Villiers. Ça n'a aucune importance, ce sont des positions, j'en discutais avec Jean-Marie Le Pen hier soir, ce sont des positions de bon sens. Bon, et qui vont effectivement à contre-courant, bien sûr, du concert de lamentation que l'on entend aujourd'hui, et qui est totalement dépendant du discours subversif. Bon, Villiers et Le Pen ont les mêmes idées. Moi, je souhaiterais que Philippe de Villiers participe à l'Union patriotique.
Ce serait son intérêt.
D'autres encore.
Ce serait son intérêt, d'ailleurs, puisqu'il est tombé de 4 à 2% dans les sondages, vous l'avez observé, je pense.
Oui. Oui, oui. Mais indépendamment de cela même.
On peut penser que c'est dû largement à la fin de non-recevoir assez brutale qu'il a opposé à l'Union patriotique.
Sans doute, et puis au fait qu'il n'y a pas d'espace, et puis au fait aussi que le discours a toujours été un peu ambigu, parce que Philippe de Villiers dit aujourd'hui je ne suis plus dépendant de l'UMP en Vendée, par conséquent je peux prendre mon envol, par conséquent je peux rompre avec l'UMP, avec le système, j'irai jusqu'au bout de mes convictions, il n'y aura pas d'accord avec Sarkozy, etc. Et puis on apprend dans le même temps qu'il y a un accord déjà de retrait mutuel pour les élections législatives, ce qui évidemment fragilise son discours, indiscutablement.
Est-ce que vous avez entendu dire, Bruno Gollnisch, que depuis quelques jours ou quelques semaines, M. Sarkozy souhaite empêcher par tous les moyens la candidature de Philippe de Villiers parce qu'il aurait découvert que, contrairement à ce qu'il est comptait, Villiers lui prendrait des voix à lui et non pas au Front National.
Je l'ai entendu dire, en effet. Je n'ai pas d'éléments personnels de vérification, mais je l'ai entendu dire, et d'ailleurs, hier encore, j'en discutais avec Jean-Marie Le Pen. Oui, cela n'est pas du tout impossible.
Moi, je suis convaincu que ça explique l'histoire sordide dont Patrick parlait tout à l'heure. Je ne crois pas du tout au hasard dans ces matières-là, et je suis absolument convaincu qu'il y a une chiraguration.
Oui.
Pour contraindre. Oui, parce qu'on a décidé que la syllabe con, on l'a supprimée. On l'a remplacée maintenant.
Et est-ce qu'ils ne vont pas le refouler dans les bras de Jean-Marie Le Pen, ces idiots-là?
Ah ben, c'est leur problème.
C'est à Philippe de Villiers qu'il appartient de se déterminer. Jean-Marie Le Pen a donné une interview au journal Minute dans laquelle il laisse la porte ouverte. L'Union patriotique, c'est un appel qui est fait coram populo, c'est un appel général à toutes les bonnes volontés, pas seulement d'ailleurs les formations politiques ou les hommes politiques, mais toutes les forces vives, comme l'on dit, les associations, les familles, les personnes, les compétences, de venir nous rejoindre parce qu'il n'est que temps.
Alors reste la question, reste toujours la question des signatures, où en êtes-vous?
Nous ne donnons pas trop de chiffres parce que d'abord ces chiffres sont extraordinairement imprécis. Il faut savoir que pour le moment aucun candidat n'a aucune signature.
Bien sûr.
Ce que vous savez, bien sûr Serge, parce que vous êtes un observateur particulièrement averti, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, je l'ai constaté, y compris les journalistes professionnels qui ne le savent pas, en ce sens que n'est donnée comme signature valable que celle qui est donnée sur le formulaire officiel. Les formulaires officiels ne sont envoyés au maire à raison d'un exemplaire par maire qu'à compter du décret de publication des électeurs. Et M. Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, a suggéré que ce décret soit publié à une date telle qu'il aboutirait qu'il aboutirait, le nouveau décret, s'il était pris sur les recommandations du Conseil constitutionnel, à diviser par trois le délai légal de recueil des signatures. Ce qui est véritablement scandaleux, inique. J'ai écrit au nom de Jean-Marie Le Pen à Mazot pour être reçu par lui, ou par un membre du Conseil constitutionnel, ils sont tout de même neuf, ou à défaut, comme ça avait été le cas la dernière fois, par un fonctionnaire du Conseil constitutionnel. Il y a un secrétaire général auprès duquel j'avais conduit la dernière fois une délégation. J'ai reçu une lettre que je considère comme injurieuse, dans laquelle Mazot explique qu'il n'a pas le temps, n'est-ce pas, ni lui, ni personne du Conseil constitutionnel. C'est extraordinaire. Voilà un monsieur qui est chargé de superviser les élections, qui n'a pas le temps de recevoir le porte-parole du candidat arrivé en finale la dernière fois.
Le plus extraordinaire.
Mais moi, j'ai bien connu Mazot, qui est un personnage cynique, capable de défendre une chose et son contraire, qui est un homme de Chirac, qui est arrivé là...
Un porte-flingue de Chirac. Il faut ajouter que c'est un ancien militant d'extrême gauche.
Paraît-il, oui.
Il se trouve que j'avais le témoignage là-dessus de quelqu'un qui l'a très très bien connu quand ils étaient pions dans une institution dont le directeur était d'ailleurs, chose amusante, le père de Jean-François Kahn. Mazot était à l'époque un très violent militant d'extrême gauche, mais l'extrême gauche la plus violente qui soit, et pas plus que Chirac, qui n'a changé d'avis. Ce sont des gens qui se sont infiltrés dans le système, et comme Chirac est communiste, Mazot est resté espèce de maoïste totalement givré d'ailleurs, parce que quand vous employez le mot cynique, c'est exactement ça, mais c'est un cynisme de KGBiste, c'est un cynisme de flic de la sécurité, c'est-à-dire c'est le type qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit « je vous emmerde, et je ferai ce que je veux parce que j'ai le pouvoir de le faire, si ça vous plaise ou non, c'est exactement le même prix, les lois je m'en tape, et c'est le président du Conseil constitutionnel ». C'est extraordinaire. J'ai revu le parrain il n'y a pas très longtemps. Ce sont des méthodes de mafieux. Ces gens-là sont des mafieux. Mais des mafieux au sens de la véritable mafia, quoi. C'est-à-dire, ils nomment leur capot des tutti capi, et puis ils ont le chef des porte-flingues, et bon, Mazot, c'est ça.
Alors, toujours est-il que dans cette situation-là, ben, je vous donne, c'est un scoop, Jean-Marie Le Pen a décidé de s'adresser au ministre de l'Intérieur. Ouais. Pas du tout à M. Sarkozy candidat, mais à M. Sarkozy ministre de l'Intérieur, qui est chargé à ce titre de préparer le décret de convocation des électeurs. Alors pour le moment, nous avons plusieurs centaines de promesses, évidemment. Nous n'avons pas le chiffre des 500. Nous sommes bien placés pour savoir par expérience, car ça a été le cas la dernière fois, que malheureusement nous sommes dans un pays où ces élus importants que sont les maires n'honorent quelquefois pas leur parole et même pas leur signature, puisque nous n'avons pour le moment que des pré-engagements qui n'ont aucune valeur officielle. Le système multiplie, contrairement à ce que l'on affirme, il multiplie les obstacles sous les pieds des candidats non officiels, et en particulier, il est quand même extraordinaire que les candidats déclarés et un candidat comme Jean-Marie Le Pen arrivé en finale la dernière fois ne dispose pas, lui ou ses représentants, d'un stock de formulaires officiels qu'il pourrait faire signer dès à présent. Le fait que ce formulaire ne soit pas remis aux candidats, le fait qu'il ne soit remis qu'en un seul exemplaire au maire, le fait qu'il soit remis au maire dans un délai extrêmement court de collègues. Tout ça, ce sont des obstacles.
Que leur nom soit publié.
Que leur nom soit publié, ce qui n'était pas le cas à l'origine, que leur nombre ait été multiplié par 5, alors qu'à l'époque où cette législation est prise, ils ne sont que 100. Tout cela constitue autant d'obstacles que le système met. J'espère que ces obstacles seront vaincus. Je le crois très fermement. Mais pour le moment, ça n'est pas fait. Et contrairement à ce que disent un certain nombre d'imbéciles ou de voyous, ne feront la nationale n'a jamais menti sur cette situation. Quand nous faisons part de notre inquiétude à ce sujet, cette inquiétude est légitime, elle est vraie, elle est fondée, et elle l'était la dernière fois. J'ai des souvenirs très précis que la dernière fois, je compte en année liturgique, en l'occurrence, parce que le week-end de Pâques était un long week-end, c'était le mardi de Pâques, le dernier délai pour déposer les signatures au Conseil constitutionnel, le jeudi saint, c'est-à-dire 5 jours avant, nous ne les avions pas. Voilà.
Vous savez sans doute, Bruno Gollnisch, que M. Besancenot craint fort de ne pas avoir ses signatures, ce qui ferait que nous n'aurions que 2 candidats trotskistes au lieu de 3, ce qui serait là encore un déni de démocratie quand même invraisemblable. Il faut ajouter, c'est le PS qui menace de, qui passe la consigne de ne pas lui donner de signature, contrairement à 2002.
Oui, je crois qu'ils ont compris la leçon. Ils veulent mobiliser, eux, sans scrupule également, la gauche de la gauche, l'extrême gauche, et peu importe si c'est l'extrême gauche marxiste, révolutionnaire, trotskiste, et dont l'histoire, au moins doctrinale, s'est écrite dans le sang. Ça ne gêne pas ces bons apôtres.
Mon cher Goffman, j'ai le regret de vous dire que la cellule de vigilance villiériste vous allume encore un coup. Monsieur Goffman est un désinformateur. Monsieur Villiers est toujours à 4% et non à 2%, soyez honnête.
Je répète ce que je dis dans les journaux.
Dans la presse, vu à la télé.
Ben, oui, mais enfin.
Il est à 4%, pourquoi ne le dites-vous pas? Pourquoi voulez-vous?
Est-ce que je viens de lire.
C'est très importante information.
Je viens de lire dans toute la presse qu'il était tombé à 2.
Oui, mais ensuite, il a gâché la soirée.
Information.
Si, vous comprenez, moi, comment voulez-vous que je tienne un peu de sérieux, un peu de considération pour cette émission si vous colportez des bruits?
Je voudrais quand même rappeler.
Pas dans quel journal, en plus.
Écoutez, franchement.
Je pourrais en faire la liste, mais
je suis désolé de vous faire de la peine, mais je suis obligé de vous reprendre.
Non, mais c'est vrai que vous faites de la peine parce que je suis obligé de dire que là, je suis accablé de messages assez violents de Villiers, vous êtes un menteur, etc., uniquement parce que j'ai eu tort tout à l'heure sur la question du logement opposable, j'ai cité Jean-Marie Le Pen en omettant de citer Monsieur de Villiers. Bon, alors je m'en excuse humblement, je ne le ferai plus, et d'ailleurs c'est pas moi, c'est pas de ma faute.
Je recommencerai pas. C'est bien. Alors ça va, donc allez en paix mon fils. Quant à moi, je dois dire à une auditrice qui dit « Je suis stupéfaite d'avoir entendu Serge de Beketch dire ce qu'il a dit sur le maréchal ». Je voudrais me permettre de lui rappeler que dans le discours de la méthode et dans la méthode du discours, il y a une dimension qu'on appelle le deuxième degré et dont il ne faut pas hésiter à faire usage quand la justice le commande. La justice, je veux dire...
L'appareil judiciaire.
Un message au premier degré du docteur Dor. Pierre Mazot était dans le même séminaire que moi à Notre-Dame de la Villette. Ce qu'il est devenu est grave compte tenu de la formation d'origine qu'il a eue comme moi.
Eh bien, ça ne fait qu'ajouter au mérite du docteur Dor qui, ayant connu Mazot dans sa jeunesse, continue malgré tout à être contre l'avortement.
Ça, c'est très drôle.
Voilà.
Ouais, très bien.
Maintenant, je ne sais pas si vous accepterez de jouer à ce jeu-là, je pense qu'il ne va pas vous plaire du tout, mais je vous pose quand même la question, Bruno Gollnisch. Mettons-nous dans l'hypothèse où les 500 signatures ne sont pas là, au moment fatal. Est-ce que vous avez déjà envisagé ça? Est-ce qu'une position a été envisagée? Une réaction?
On verra. C'est une hypothèse dans laquelle nous ne souhaitons pas nous placer. Ceci étant, Jean-Marie Le Pen a connu cela déjà. Bon. Je pense que nous nous efforcerions de faire en sorte que l'élection législative soit la revanche, bien évidemment, contre le système. Mais je pense que ça signerait la fin de la Ve République, voilà. Très sincèrement. Et la transformation définitive de la France en République bananière... Je n'exclus pas d'ailleurs des réactions désespérées. Nous sommes des gens tout à fait légalistes et je crois au respect des lois, même injustes. parce que souvent, c'est un moindre mal par rapport à la violence civile dont on ne sait pas comment elle peut dégénérer, comme on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Ceci étant, je pense que les Français ne supporteront pas indéfiniment le système et que si nos adversaires s'assoient sur le couvercle de la marmite, elle finira par exploser et par leur brûler les fesses, ça c'est certain.
Mais moi j'avais une petite idée, je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir pensé à ça, mais dans cette hypothèse, c'est de lancer un appel à tous ceux qui auraient voté pour Le Pen en leur disant « votez nul ». C'est-à-dire annuler votre bulletin de vote, parce que c'est compté ça, c'est décompté au dépouillement. Et si les bulletins de vote, les bulletins nuls qui sont en général, je crois que la moyenne ça doit être autour de 2 ou 3% des bulletins, si ça passe brutalement à 25 ou 28%, c'est une forme de publicité cachée.
L'élection prend une drôle d'allure.
Et le système...
Moi, je voterai Le Pen de toute façon.
Et voilà.
Il est son autorisation. Enfin, qu'il ait cette autorisation. Pas, mais je crois que nous allons réussir grâce à la mobilisation quand même de nos sympathisants. Je lance un appel, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui connaissent, qui ont des maires dans leurs relations familiales, personnelles, amis.
Si votre mère est mère.
Voilà.
C'est bien
qu'ils entrent en relation avec eux et qu'ils sachent bien que c'est un devoir personnel du maire. Ce n'est pas le conseil municipal qui s'engage, ce n'est pas la commune. C'est le maire qui doit recommander une candidature au même titre qu'il a pour mission de délivrer les certificats d'état civil, les permis d'inhumer de ce système, encore une fois, incapable de redresser le pays. Bon, enfin, toutes ces formalités administratives, c'est une formalité administrative par laquelle le maire atteste qu'une candidature est sérieuse. Rien de moins, rien de plus.
Comment est-ce qu'on vous contacte les élus locaux, vos responsables locaux, ou bien à Saint-Cloud,
Front National, l'un ou l'autre, ou Bruno Gollnisch, Front National, 4 Ruvaux-Guyon, VAUGUYON, 92-210 Saint-Cloud.
Moi, je suis fasciné par l'énergie qui était pensée pour essayer d'avoir les signatures. C'est incroyable qu'on soit dans un système pareil. Ça doit bouffer un temps fou à des tas de gens.
Enfin, ça mange énormément de temps et énormément d'argent. Et le temps qui est dépensé à importuner des maires réticents parce qu'ils ont peur pour leurs subventions, parce qu'ils ont peur des réactions de leur conseil municipal, de leurs femmes, de leurs voisins, de que sais-je encore.
Ce qui ne les empêche pas de présider les cérémonies dont je parlais tout à l'heure.
Bien sûr, l'ancien maire, voilà, et héros de la résistance, voilà. Et que sais-je encore, bien sûr. Le temps qui est passé là, c'est un temps, c'est une énergie qui ne sont pas dépensées aux opérations normales d'une campagne électorale qui est tournée en principe par les électeurs.
À cet égard, c'est quand même fascinant de voir que la secte de Madame Laguiller, qui s'appelle l'Union communiste, dont le journal est Lutte ouvrière, a trouvé les moyens de réunir, dit-elle, plus que les 500 signatures, mais aussi de s'offrir 15 000 panneaux 4x3 dans toute la France. J'en connais pas le prix, mais enfin, ça doit être quelque chose d'énorme. Panneaux dont j'apprends que l'accès serait interdit à Jean-Marie Le Pen. Au fond,
toutes les fois que nous avons essayé d'obtenir des réseaux d'affichage, comme par hasard, ils n'étaient pas libres. Alors, j'ai fait l'expérience moi-même quand je dirigeais les campagnes. J'avais écrit à tous ces gens-là pour obtenir des panneaux. Soit on n'avait pas de réponse, soit on avait la réponse que c'était pas libre. Alors, on répliquait, bah, dites-nous quand ils sont libres. Voilà, et là, on n'avait pas de réponse. Donc, par conséquent, il est extrêmement clair que les grands réseaux ne veulent pas afficher le Front National. C'est un refus de vente qui les rend théoriquement passibles du tribunal correctionnel. Mais les lois ne sont appliquées qu'à sens unique. Elles seront appliquées contre le militant qui, dans cette situation-là, aura pour exercer cette grande liberté publique qui est la liberté d'afficher, qui est une des libertés essentielles de la presse. Je rappelle que c'est la même loi, la loi de 1881, qui régit à la fois la presse et l'affichage. Et l'affichage, c'est le moyen d'expression du pauvre. c'est celui qui n'a pas pour lui les chaînes de télévision, les grands médias, et qui peut, malgré tout, moyennant quelques francs, arriver à faire connaître son opinion. Eh bien, comme l'affichage commercial a banni les espaces d'affichage libre, eh bien, ce sont ceux qui essaient de coller quelques affiches sur une palissade ou sur un mur de béton qui vont se retrouver devant les tribunaux de police ou interpellés, conduits au poste, gardés à vue, que sais-je. Je crois qu'il y a une inversion des valeurs absolument dans tous les domaines.
Soyons positifs, Jean-Marie Le Pen aura ses 500 signatures.
Oui. Mais pas tout seul, à condition que tout le monde s'y mette.
Est-ce que Maigret vous en apporte 140 ou non ?
Ça ne se présente pas en termes de marchandage. Un certain nombre de maires avaient signé pour Bruno Maigret, puisqu'il avait pu être candidat la dernière fois. Il est évidemment dans la logique de l'union patriotique qui se fait que Bruno Maigret et ses amis contactent les maires en question pour leur demander de parrainer Jean-Marie Le Pen, et je suis persuadé qu'ils le feront.
Enfin, ce qu'il faut ajouter quand même, c'est que ces spéculations sur quel marchandage il y aurait pu avoir entre Maigret et Le Pen, ça ne tient pas debout, tout simplement, parce que ce que vient de nous expliquer Bruno, c'est que, d'une part, les maires, ils sont restent propriétaires de leur signature, qu'ils n'ont pour l'instant donné qu'une promesse, laquelle, comme on sait, n'engage que ceux qui la reçoivent. Par conséquent, la promesse n'engage que ceux qui la reçoivent. Donc, le maire a dit à l'envoyé de Bruno Maigret, d'accord, je donnerai ma signature à Bruno Maigret. Le jour où le gars va revenir le voir en disant, écoutez, vous connaissez les accords qu'on a passés avec Maigret, donc votre signature, elle ira à Le Pen. Le type lui dit, vous allez vous faire cuire un œuf. C'est tout. Donc, ça, c'est vraiment, s'il y a eu une négociation, je regrette de dire que c'est ce qu'on appelle un marché de dupes.
On n'est pas plus propriétaire de ses voix en termes.
Ça, c'est comme les gens qui disent je donne le droit.
On est propriétaire de ses parrainages, bien sûr.
Et pour rester sur cette histoire, parce que moi, je considère que c'est le plus grand scandale de la démocratie actuelle, cette histoire de signature de maire. Bon, personnellement, les scandales démocratiques me gênent pas beaucoup, mais puisqu'on vit dans la démocratie, au moins qu'ils aient la pudeur d'appliquer au minimum leurs propres règles. Quelles sont exactement, parce que j'entendais ce matin sur une radio, dire que tous les élus ont le droit de signer. Quel que soit leur statut d'élu. Alors, quels sont exactement, Bruno Gollnisch, les élus qui ont le pouvoir de signer? Il y a les maires,
les sénateurs,
qui encore?
Il y a les parlementaires, donc députés, sénateurs, députés européens, les conseillers régionaux, généraux et les maires. Voilà, point final. Les conseillers régionaux, les conseillers généraux, c'est-à-dire des départements, et les maires. Je vois qu'on me pose une question. Monsieur Gollnisch, vous prétendez que des imbéciles ou des voyous colportent le bruit que M. Le Pen a ses 500 signatures. Avant-hier, paraît-il, M. Griotret, sur cette radio, l'a soutenu. Or, M. Griotret est sérieux. J'ai bien connu M. Griotret est sérieux. Je ne range pas ni dans la catégorie des imbéciles, ni dans la catégorie des voyous, mais s'il dit que nous avons, à l'heure actuelle, ces 500 signatures, je dirais poliment que M. Griotret se trompe. Il a été trompé. Nous ne les avons pas. Si nous les avions, nous le dirions. Voilà, nous ne les avons pas. Nous aimerions beaucoup les avoir. De le croire, mais il peut intervenir auprès de ses amis politiques, puisqu'il avait des positions assez proches des nôtres, tout en étant, lui, membre, je crois, du Parti Républicain. Il peut intervenir auprès de ses amis politiques pour que nous les ayons. Ça les rendra son affirmation audacieuse encore plus sûre.
Au demeurant, de façon parfaitement factuelle, c'est absolument indiscutable que Le Pen n'a pas les 500 signatures.
De toute façon, pour le moment, évidemment, aucun candidat n'a aucune signature puisque les formulaires officiels ne sont pas arrivés. Mais de surcroît, nous n'avons pas les 500 engagements de signature qui nous permettraient de voir l'avenir de façon un peu plus sereine. Mais nous espérons les avoir, nous faisons tout ce qu'il faut pour les avoir et nous lançons un appel à ceux qui pourraient nous les donner. Et je vous prie de croire d'ailleurs que je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y aurait pour nous à dire que c'est un problème grave si ça ne l'était pas.
Bah, je vois pas non plus.
Sur le plan de la propagande électorale, après tout, il serait tout aussi majoratif de dire que nous les avons les doigts dans le nez et que nous avons vu des cohortes de maires dès l'annonce officielle de la candidature de Jean-Marie Le Pen se précipiter à notre siège pour lui apporter son soutien.
Ça serait beaucoup
c'est
plus
évident. Ça serait beaucoup pour nous, ce serait beaucoup plus majoratif.
Et de dire au maire, écoutez, de toute façon, on a déjà 2000 signatures.
Arrêtez,
vous pouvez ajouter la vôtre, vous ne risquerez rien, parce que hein, comme les 500 qui seront publiés seront tirés au sort, vous avez quand même une chance sur, enfin, 3 chances sur 4 de vous en tirer, ou de ne pas être tiré par conséquent.
Que pensez-vous des inscriptions massives récemment?
Voilà, encore un mensonge médiatique. C'est, pardon de couper la réponse. Vous avez une opinion sur ces prétendues inscriptions massives?
Je vois que c'est surtout le fait de gens qui sont en retard sur le plan administratif, quoi, voilà, qui n'ont pas le temps ou pas le loisir de penser à la chose publique durant l'année, et puis qui se réveillent un peu au dernier moment. C'est assez fréquent dans l'océan des formalités qu'on a à remplir. Je ne sais pas quel sera l'impact. Je ne sais pas du tout quel sera l'impact électoral. Ce que je sais, c'est que le Front National, contrairement là aussi, je m'excuse de reprendre la formule, ce que disent un certain nombre d'imbéciles ou de voyous, les voyous ce sont ceux qui sont conscients qu'ils mentent, et les imbéciles c'est ceux qui sont abusés par les voyous. Je précise, eh bien le Front National ne bénéficie pas du tout des situations d'abstention. On dit l'abstention favorise le Front National, absolument pas, c'est l'inverse. Je le regrette d'ailleurs, il y a peut-être dans une partie de notre électorat une petite carence en termes de sens civique, parce qu'il y a souvent un réflexe de protestation contre le système politique qui peut se traduire alternativement chez certaines personnes par un vote pour le Front National ou pour Jean-Marie Le Pen, d'une part, ou par un refuge dans l'abstention. Par conséquent, ce qui est le plus profitable pour nous, ce sont les situations de très forte participation. Voilà. Donc moi je souhaite qu'il y ait une très forte participation, car c'est prouvé par des dizaines d'élections de toute nature, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles. Plus le taux d'abstention est fort, plus meilleurs sont nos résultats.
Monsieur Le Pen s'exprime sur le site internet Les banlieues s'expriment. Enfin, s'est exprimé. Quel écho cette entrevue a-t-elle déterminé?
Il est trop tôt pour le dire. Il est certain que la clientèle de ce site n'est pas la nôtre. C'est d'être un peu dans la foulée de la rencontre brève avec Dieudonné, quand Monsieur Dieudonné est venu à notre fête, à notre grande manifestation d'automne, à notre convention présidentielle, et par la suite, c'est vrai, moi-même je me suis rendu à son spectacle. Ça ne signifie pas que Dieudonné, d'un seul coup touché par la grâce, partage toutes les opinions du Front National, ni que nous ne partagions toutes les siennes. Ça veut dire simplement que il s'est passé quelque chose qui a fait que Dieudonné a dit « Mais moi, j'ai beaucoup combattu le Front National, j'ai beaucoup combattu en particulier Marie-France Tirebois à Dreux. Je le regrette parce que je me rends compte que j'ai été abusé. J'ai été abusé par les professionnels de l'anti-racisme. L'antiracisme institutionnel, c'est un truc par lequel le système instrumentalise l'ensemble de la population pour lutter contre les nationaux, contre les patriotes, et il n'y a pas plus de racistes au Front National qu'il n'y en a ailleurs. Moi, je trouve que c'est extraordinairement courageux de la part d'un artiste qui a déjà des difficultés à se produire que de dire cela, qui ne peut, a priori, lui rapporter absolument rien. Et en particulier, pas forcément non plus dans ses troupes, dans son public.
Est-ce que vous savez, à ce propos, Bruno Gollnisch,
pardon,
excusez, mais c'est le moment où jamais de faire l'incise, est-ce que on vous fait une revue de presse et vous avez vu les dessins des antiracistes de Charlie Hebdo qui représentaient Dieudonné comme un singe perché sur l'épaule de Jean-Marie Le Pen? Alors, ça peut pas être de l'antiracisme, puisqu'ils sont de gauche et d'extrême gauche, mais quand même, représenter un noir sous les traits d'un singe, ça vous est arrivé dans votre vue de presse? Qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on pense à ce que Jean-Marie Le Pen a encouru pour avoir traité le monsieur Faudécilla de grand zébu fou, ce qui était un terme, je dirais, presque affectueux, compte tenu des injures dont Faudécilla l'avait abreuvé. Je trouve que c'est... Mais bien sûr, il y a deux poids, deux mesures dans notre pays, et il y a une injustice constante qui est faite aux nationaux, et qui est exaspérante, qui est d'autant plus exaspérante, encore une fois, que nous sommes des gens pacifiques. Nous respectons les lois. Il y a beaucoup de pays où une formation politique traitée comme l'est aujourd'hui le Front National, eh bien, verrait des gens dans la rue, peut-être même des gens prendre des fusils. C'est arrivé dans beaucoup de pays. C'est arrivé, bon, par exemple, le fils d'un parti algérien, bon, a été empêché de se présenter aux élections. Les gens du fils ont pris des fusils et ont commencé à égorger ce qui ne leur convenait pas.
Et pourtant, l'Algérie est un modèle de démocratie.
J'ai l'impression qu'il y a une assurance tranquille des gens du système, qui savent très bien que nous ne sommes pas conformes à l'image qu'ils cherchent à donner de nous et qui pensent que nous supporterons toujours indéfiniment n'importe quoi. Je le dis gravement, je suis opposé à la violence, mais je pense que ces gens-là feraient bien quand même d'être prudents.
Mais il y a un exemple, enfin il y a une démonstration de... Un exemple à l'appui de ce que vous venez de dire, c'est cette espèce d'acharnement médiatique très très particulier. Pas plus tard que ce matin, Jean-Marie Le Pen était sur RMC, interviewé par Jean-Jacques Bourdin, je crois qu'il s'appelle.
Oui.
Et bon, sur la question justement des sans domicile fixe, des habitants des tentes de Paris. Et Bourdin lui dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes contre? Et Le Pen dit, oui, bien sûr, je suis contre. Et il explique pourquoi. Et il dit, personne ne dit jamais la vérité sur cette question de la crise du logement. La crise du logement est liée au fait que 90% des logements sociaux sont attribués à des étrangers ou à des immigrés. Bon. Tout le monde sait bien que dans la conversation française, quand on dit 90%, c'est comme dans la Bible quand on dit 144 000. Il va pas y avoir à l'entrée du paradis un ange avec 144 000 tickets pour distribuer les droits d'entrée. Ça veut dire que ça va être difficile d'y entrer. Et donc quand on dit 90%, ça veut dire un pourcentage, une proportion très importante des logements est attribuée à des étrangers. Et Bourdin a passé le reste de la matinée a convoqué des experts au téléphone qui tous ont dit mais ce chiffre est faux, ce chiffre...
Comment ils le savent, c'est illégal.
Attendez, laissez-moi finir une seconde parce que c'est exactement le problème. Alors ça, c'est un des problèmes qui se pose. D'abord, parmi les experts qui apportaient leurs réponses, les réponses en question, ils ont fait venir un type qui est... un de ces innombrables bouffeurs de subventions qui vivent sur le dos de la misère. Le type, il doit être secrétaire général du comité de préservation des droits des mal logés sans logis, sous attente de logement, en attente d'attribution de HLM, je vous prends un truc, qui permet de payer un président, un secrétaire général, 12 secrétaires et des notes de frais en voilà. Et ce type a dit, moi je vais vous donner les chiffres, en fait, et alors je crois qu'il a dit, 24% des logements HLM sont occupés par des immigrés. D'abord c'est pas du tout la même chose. Le Pen a parlé de logements sociaux attribués, et lui il répond, des HLM occupés. Les HLM ça ne couvre pas le champ des logements sociaux. La plupart des gens qui sont dans les logements sociaux sont justement des gens qui ne sont pas susceptibles d'avoir des HLM parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y accéder.
Non, mais en plus, ils y sont depuis des dizaines d'années. Ouais. Donc, il y a une vieille population française qui existe.
Exactement.
Puis la deuxième chose, c'est qu'on trafique sur le mot étranger, effectivement, parce que dedans, on sait très bien qu'il y a des Français de papier.
Mais quand Le Pen dit des immigrés, il veut parler des Français d'origine étrangère. Mais pas du tout. Je pense qu'on peut, au moins, même si on n'aime pas Le Pen, il faut lui faire le crédit que quand il emploie un mot en langue française, il sait ce qu'il dit. Et quand il parle d'étranger, il parle d'étranger. Quand il parle d'immigré, il parle d'immigré. Quand il parle de Français d'origine immigrée, il parle de Français d'origine immigrée. Bon. Eh bien, tout ça est embourbé et tout. Et alors, accessoirement, de toute façon, la question qu'il posait était, et là je suis tout à fait d'accord avec Patrick, une question à laquelle on n'a pas le droit légalement de répondre, puisqu'il n'existe officiellement aucune statistique qui fasse état de l'origine nationale des attributaires de logements. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que le type qui a répondu ça, il a dit dans la même phrase la chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il a commencé par expliquer qu'il y avait 24% des logements qui étaient attribués à des Français d'origine étrangère.
Et d'ailleurs,
on n'a pas le droit de faire le recensement.
Et donc la statistique n'existe pas.
Ça s'appelle clairement se foutre de la gueule du monde, ça.
On n'a même plus le droit, dans un bulletin municipal, de mettre le nom des enfants qui naissent.
Que là-dessus, tout ça enveloppé par Bourdin dans son discours, où il dit en permanence que sur Radio Monte Carlo, RMC, tout le monde peut dire c'est la radio de la liberté, où tout le monde peut s'exprimer de l'extrême droite à l'extrême gauche et tout. Bon, c'est encore un mensonge, bien entendu, c'est pas vrai. Je peux en témoigner, puisque plusieurs fois j'ai essayé d'intervenir à l'antenne, ça a été... naturellement pas dit qui j'étais, j'intervenais sous le nom de Julot ou Popol. Je posais des questions qui étaient évidemment orientées, mais discrètement. Jamais j'ai pu passer. En ce qui concerne les attributions de logement, en tout cas j'ai un témoignage précis qui m'a été donné par mon fils. Quand mon fils s'est marié et qu'ils ont eu leur premier enfant, il a demandé à avoir un logement, et la seule question qu'on lui a posée à la mairie quand il s'est présenté, c'est « Appartenez-vous à une minorité ?» C'était la seule question. Il a dit, mais quoi une minorité? À quelle minorité puis-je appartenir? Je suis français. Alors évidemment, il appartient à une minorité. Il est français, il est blanc, il est blond, il est marié avec une femme.
Il est poli.
Il est catholique. Alors ça, c'est même.
Il n'a pas de casier.
Il est d'extrême droite. Alors ça, c'est même plus une minorité. Là, c'est carrément un cas clinique.
Il n'y a de toute façon en France aucune statistique crédible sur la notion de français ou d'étranger. Comme l'a dit Monsieur Toubiana, il n'y en a pas parce que on ne recense pas le phénomène de la double nationalité.
Voilà,
déjà pour commencer. Quand on vous dit par exemple qu'un tiers des prisons sont occupées par des étrangers, on ne vous dit pas que le deuxième tiers est composé de gens qui ont aussi la nationalité étrangère, tout en ayant la nationalité française, mais bien souvent en l'ayant obtenue automatiquement et en n'ayant rien fait pour s'en montrer digne, sinon il est douteux qu'il soit là.
Ce qui est d'ailleurs formidable, c'est que quand il y a eu les élections à la présidentielle, enfin la présidentielle en Algérie, on a vu les gens, les Algériens, franco-algériens de double nationalité, faire la queue devant les consulats pour élire un beauté flic et dire qu'ils avaient ou qu'ils avaient voté Chirac.
Oui.
Au deuxième tour.
Ça a été le début de l'engagement de notre ami Farid Smaï, qui est aujourd'hui membre du bureau politique du Front National et qui a commencé comme patron d'une association de jeunes, comme l'on dit, de la deuxième, voire de la troisième génération, dans laquelle il s'adressait aux enfants d'immigrés en disant, écoutez, si vous participez aux élections algériennes, c'est peut-être respectable, mais ça veut dire que votre avenir est en Algérie. À ce moment-là, il ne faut pas rester en France. Si vous vous considérez comme français, eh bien, vous n'avez aucune raison de participer aux élections algériennes. Et Farid Smaï est l'un de nos militants, et même, on peut dire, l'un de nos dirigeants. Il n'y a donc pas de statistiques de la double nationalité. Ça fausse absolument tout. Et en effet, subsidiairement, les logements ne sont pas attribués sur un critère de nationalité. Ce qui est certain, par exemple, un seul exemple. Dans ma région, la région Rhône-Alpes, il y a déjà de cela plus d'une dizaine d'années, le président du conseil général de la Drôme, ça n'est pas rien, c'est le patron du département, avec le préfet. Bon. Monsieur Mouton, je donne le nom, élu UDF.
J'espère qu'il se méfie le jour de la fête qu'il vient, c'est tout.
Monsieur Mouton, maire de la ville de Pierrelatte, je donne les références, a un jour, président une commission d'attribution des HLM, a dit non, quand même, dans cet immeuble, nous avons donné énormément de logements à des familles d'origine africaine. Là, je suis désolé, mais je pense qu'il faudrait quand même faire passer le dossier d'un Français, parce que sinon, on va créer des ghettos, etc. Bon. Donc, il a favorisé sur un critère de nationalité et dans un but que la pensée unique considère a priori comme légitime, oui, celui de la fameuse mixité sociale, il a favorisé un dossier de famille française. Eh bien, M. Mouton s'est retrouvé sur les bancs de tribunal correctionnel. Voilà. Et il a été condamné. Eh bien, il a démissionné de ses fonctions de maire, il a été réélu triomphalement.
Il n'a pas adhéré au Front National.
Non, il aurait dû, il devrait, il est encore temps.
Ouais. Est-ce qu'on peut au moins, il va signer, lui.
Mais il aura quand même la médaille de la résistance.
Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse...
Il ne sera pas tendu à la libération.
Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse avec le juriste que vous êtes, Bruno Gollnisch? J'ai attendu toute la journée avec impatience de vous retrouver. Merci. Parce que je n'arrive pas... Ah bah oui, je défends mon clan, et d'ailleurs, je vais toucher mon chèque tout à l'heure. je n'arrive pas à comprendre comment M. Nasseri, qui a été Sami Nasseri, le comédien de Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, et bientôt, réjouissez-vous, Taxi 4, dans un mois...
C'est pas difficile, maintenant.
Non, c'est pas difficile. Le film est en boîte et il sera sur les écrans.
Il n'y aura pas Taxi 6 parce qu'il est en tournée.
J'en sais rien. Non, il n'est pas en tournée, justement, c'est ma question. Il a été condamné au mois de décembre pour insulte, injure raciste envers des policiers d'origine africaine. Et puis, il a été condamné à 6 mois ferme. Et maintenant, on nous raconte que lundi, il est arrêté pour conduite sans permis, que mardi, il est arrêté pour bagarre au couteau devant une boîte de nuit. Alors, moi... j'arrive pas à comprendre.
Qu'est-ce qu'il a prévu pour ce mercredi, là?
Donc, qu'est-ce qu'il a prévu pour ce mercredi, mais surtout,
appel et l'appel est suspensif en matière pénale. Voilà. Sauf si vous êtes condamné à plus d'un an de prison et que le tribunal ordonne votre incarcération immédiate. La réponse technique.
Sauf si vous prétendez, par exemple, que les historiens ont le droit de se prononcer sur des questions d'histoire. Voilà. Ça, c'est quand même.
C'est beaucoup plus grave.
Il n'a pas arrangé ses affaires, là, M. Sami Nasseri.
Est-ce que vous voulez savoir comment France Info appelle toute cette série quotidienne de crimes et de délits de Sami Nasseri? C'est des bois judiciaire.
Non, mais la vérité, Bruno Gollnisch a donné une explication en droit pur à sa liberté. Mais il y a une explication occulte. Il y a toujours une explication occulte. Il y a même une main, oui, évidemment. Et la main qui dirige, la main occulte, naturellement, qui est celle de la pénitentiaire.
Oh, une cochonne, celle-là.
Écoutez, Radio Courtoisie.
Oui, c'est le moment de le rappeler. Merci, Gurfman.
Il me fait le CSA.
Et donc, cette main occulte, elle a décidé que les surveillants ne veulent absolument pas avoir un type pareil dans leur prison parce qu'ils se disent, il est dehors, il casse la gueule à tout le monde, il casse la gueule aux flics, il les injure, il va nous casser la gueule à nous aussi. Donc on n'en veut pas.
Il va falloir
faire une prison spéciale pour lui.
Virer de l'hosto, virer de la Légion, virer de la tôle.
Voilà. Et alors on va finir par en arriver à cette solution qui avait été proposée non pas par Alphonse Allais mais par un de ses épigones, je suppose, qui est de mettre les honnêtes gens en prison pour les tenir à l'abri des voyous qui sont en liberté.
Eh oui.
Hein?
Eh oui.
On parle beaucoup du vote des banlieues, pardon Serge. Dans quelle mesure la fameuse affiche du front où l'on voit une jeune fille de couleur peut avoir un impact positif auprès des Français d'origine étrangère ou des dom-toms?
Oui, je crois que cette affiche ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
On l'a surtout vu dans les journaux.
On l'a surtout vu dans les journaux, c'est vrai.
Personne ne veut la coller, Bruno Gollnisch.
Elle manifeste que nous acceptons dans la communauté nationale, que nous reconnaissons dans la communauté nationale des jeunes gens dont la couleur de peau n'est pas forcément laiteuse, quoi. Voilà, ben c'est pas tellement nouveau, que ce soit des Antillais, que ce soit des jeunes issus de l'immigration. à la condition, bien évidemment, qu'ils manifestent leur amour de la France, leur désir de respecter ses lois, de s'adapter à la communauté nationale, qui n'est pas, elle, indifférenciée. Je pense que l'on a le droit, en ces temps où l'on se préoccupe légitimement des espèces en voie de disparition, de dire qu'il y a quand même une nation française qui est principalement celtique, latine, germanique, principalement européenne, et qui, après tout, a le droit de vouloir le rester.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait confié à un journaliste de Libération le soin de réaliser les affiches de propagande de...
Pourquoi vous me regardez, hein? Je suis pour rien.
Un journaliste de Libération, vous me l'apprenez?
Oh, je sais pas. Moi, je trouve qu'on sent la patte de Forcari, là, derrière.
Non, ça, je crois pas.
Il n'a même pas servi à ça, alors.
Non.
Monsieur Gollnisch, c'est-il ce qu'il en est, constitutionnellement, de la possibilité pour un binational d'accéder aux responsabilités de Premier ministre et de Président de la République française?
Il n'y a, dans notre Constitution, aucun obstacle. Car la catégorie de binational n'existe pas au regard du droit français. Les binationaux sont considérés comme français par la France. Ils peuvent être bi, tri ou quadrinationaux d'ailleurs. J'ai connu un cas. Voilà, ils sont considérés comme français par la France. À partir de ce moment-là, ils ont tous les droits afférents à la qualité de citoyen français.
Après avoir fait leur
service. Il y a des États où, sur le plan constitutionnel, par exemple, il ne suffit pas d'avoir la nationalité. Il faut l'avoir d'origine. Il faut être né dans le pays, vous savez, par
les
exemple.
États-Unis.
Aux États-Unis, par exemple, c'est un problème aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, c'est ce qui avait empêché Henry Kissinger, par exemple, d'envisager de se présenter.
Schwarzenegger
d'envisager de se présenter aux élections présidentielles américaines. Ce n'est pas le cas en France, chacun peut porter là-dessus un jugement.
Que pensez-vous des images de la pendaison de Saddam Hussein? Et quelle est votre position et celle du Front National devant cette mascarade de justice?
Je pense qu'il est heureux qu'il y ait des images parce que ça manifeste l'ignominie. Il vaut mieux que l'ignominie soit publique que cachée.
L'auteur des images est arrêté.
Paraît-il.
Oui, mais c'est là qu'on voit.
On va passer un mauvais quart d'heure.
Parce que, après tout, les images, les Américains avaient voulu des images d'un procès. J'observe quand même une chose. C'est qu'on nous dit, mais Saddam Hussein n'a été condamné que sur un chef d'accusation. Les représailles contre un village où une embuscade avait été tendue contre son escorte et contre lui. Mais il s'est défendu. On voyait bien à la télévision qu'il se défendait à ce sujet. On le voyait bien. Tout ça pouvait parfaitement être traduit. Qu'a-t-il dit pour sa défense? On ne le sait pas. On ne le saura pas. On le voit qu'il parle. On le voit qu'il apostrophe ses juges. On ne sait pas ce qu'il dit. C'est comme Milosevic. Milosevic, je n'étais pas partisan personnellement de Milosevic. J'étais partisan de l'indépendance de la Croatie. Et je pense que Milosevic a engagé son pays dans une guerre très malheureuse contre la Croatie. L'affaire du Kosovo, c'est tout à fait différent parce que je ne vois pas au nom de quoi on peut dire aux Serbes, vous devez respecter les frontières historiques de la Croatie, même s'il y a des Serbes qui vivent en Croatie, ils doivent rester là où ils sont, vous ne pouvez pas annexer ce parti de territoire croate, et pourquoi la même jurisprudence ne vaudrait pas en faveur des Serbes quand ce sont les Albanais qui habitent au Kosovo, qui était le berceau national de la Serbie. Bref, fermons la parenthèse. Au tribunal pénal international, eh bien Milosevic s'est défendu durant des mois, de façon, je crois, extrêmement pugnace, extrêmement combative. Brillante. On n'a pas eu une ligne dans aucun média occidental de sa défense.
C'est là que
nous vivons. Oui, ce sont sur des sites confidentiels.
Et le Libre Journal, bulletin paroissial.
Et bien sûr, voilà. Mais je parle, hélas, des grands médias qui font encore la majorité de l'opinion. En ce moment se déroule, je crois, le procès de M. Sesel, qui est le président du plus important parti serbe, qui s'est constitué prisonnier dès la publication de l'acte d'accusation contre lui, qui est au secret depuis 4 ans, dans les geôles de La Haye, et qui exige, professeur de droit, de se défendre lui-même, qui ne veut pas de ses avocats commis d'office, qui sont en réalité des auxiliaires de l'accusation. Passant leur temps à reconnaître les crimes réels ou imaginaires de leurs clients et à solliciter l'indulgence du tribunal. Eh bien, ce droit a été refusé à Seyssel. J'ai, avec plusieurs de mes collègues au Parlement européen, demandé à lui rendre visite. Ce droit m'a été refusé, ce qui est tout de même extraordinaire, avec un motif d'une parfaite tartufferie, à savoir que M. Seyssel ne m'avait pas mis dans la liste des personnes qui désiraient voir. Mais évidemment, il ne savait pas que nous avions l'intention de lui rendre visite. Par conséquent, avant de savoir s'il acceptait notre visite ou pas, il fallait le lui demander. C'est tout à fait clair. Par conséquent, cette justice est une, je crois, une mascarade. Il est quand même assez plaisant que l'on entende dire que Saddam Hussein était un personnage abominable parce qu'il avait tué les civils irakiens et que ceci nous soit dit par les autorités américaines qui n'ont jamais tué que 80 000 civils à Nagasaki, 100 000 à Hiroshima, 120 000 à Dresde et ailleurs. Étant entendu d'ailleurs qu'en Irak même, ce qui a fait le plus de victimes civiles, et de très loin, c'est l'impitoyable blocus américain pendant près de 12 ans, dont est résultée une situation de malnutrition épouvantable, notamment pour les enfants de ce pays.
Et le Lancet, qui est une des revues médicales les plus respectées au monde, enfin une des deux revues les plus respectées au monde, a établi que 600 000 Irakiens étaient morts des suites directes de l'embargo.
Oui, c'était incroyable. On allait jusqu'à refuser les importations de crayons de papier. Je l'ai vu, ça. Moi, je l'ai vu en Irak. Au motif qu'avec les mines du crayon, on aurait pu faire des graphites. Du graphite avec du graphite des bombes atomiques. C'est monstrueux. Mais je pense que, surtout, que la faute, au-delà de tout cela, la faute politique majeure a été de s'en prendre, non seulement à Saddam Hussein, mais au parti Baas, c'est-à-dire au nationalisme arabe, qui est évidemment, qui était, on peut dire aujourd'hui, hélas, qui était la seule force politique, spirituelle, intellectuelle, en mesure de s'opposer à la poussée de l'islamisme fondamentaliste. Et on le voit bien, d'ailleurs, si les Américains voulaient sortir du piège irakien, eh bien, ce qu'ils avaient à faire de plus intelligent, c'était de sortir Saddam Hussein de sa prison, pas pour le pendre, mais pour le remettre au pouvoir.
Mais pour comprendre ça, il faut avoir lu la vieille légende du golem de Prague.
Voilà. Que pense M. Golnisch et le Front National de la transformation du musée des colonies de la Porte Dorée en soi-disant musée de l'histoire de l'immigration ? Ont-ils l'intention de faire quelque chose pour protester contre l'inauguration qui doit avoir lieu en avril ? Et un autre message qui suit dans le même genre, j'ai toujours voté Jean-Marie Le Pen et Front National, et je continuerai. Mais je vous trouve un peu timide à l'égard des règles et des lois. On ne peut indéfiniment respecter des lois criminogènes.
Oui, je suis de cet avis. C'est ce que je viens d'exprimer tout à l'heure. Ça, c'est ma réponse à la deuxième question. La réponse à la première, je crois effectivement que nous pourrions nous emparer du sujet. Je pense qu'il fallait changer l'intitulé. Musée des colonies, il n'y a plus de colonies. Bon, on pouvait avoir un musée de l'outre-mer, on pouvait avoir un musée de l'aventure française
outre-mer. Le musée de la préhistoire, il n'y a plus de préhistoire.
On pouvait avoir un musée de la France, de l'aventure française en Outre-mer, ou quoi que ce soit, peu importe. Le réduire à un musée de l'immigration, c'est absurde.
Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans?
Les immigrants.
C'est un projet Jospin, je crois, au départ. Hein.
Oui, ça y ressemble, enfin c'est digne de lui, oui, tout à fait.
Un de plus qui est repris par l'UMPS avec enthousiasme.
Ça fait partie des méthodes subversives qui consistent à couper les Français de leur passé,
c'est ça,
et à les persuader qu'ils n'ont d'autre avenir qu'en acceptant l'invasion de leur propre
pays. On va casser, vous croyez, au marteau-piqueur les bas-reliefs, la statue, le groupe statuaire qui est en face du musée des colonies, parce qu'on y voit de pauvres Africains qui pagayent pour remorquer l'oppresseur blanc dans leur pirogue,
Mais non,
c'est pas poli.
C'est pas de la pêche au crocodile, c'est du ski nautique.
Ah bon,
profondément, oui.
Alors, un auditeur vous dit, je suis en train de vous écouter. En tant qu'auditeur et spectateur, je constate que Bruno Gollnisch est toujours extrêmement clair et percutant dans ses explications et développements. Il a des façons de dire les choses qui permettent à ceux qui l'écoutent de toucher du doigt des choses ressenties confusément ou même pas ressenties du tout. Ceci, ajouté à sa courtoisie, sa politesse, sa bonne humeur, son calme...
Pas toujours, pas toujours.
En ouais. fond, en fond, un redoutable représentant du Front National, et en donne une bonne image, une image rassurante pour un électorat indécis. Je ne dis pas qu'il est le seul dans ce cas, car il y a d'autres talents manifestement au Front.
C'est vrai,
mais
c'est vrai.
Je me suis demandé il y a quelques mois si un grand nombre de médias, dont les médias nationaux ne faisaient pas exprès, si les médias nationaux ne faisaient pas exprès de n'inviter que Marine ou Jean-Marie pour la raison dite ci-dessus, que Bruno Gollnisch leur apparaît par sa personne une dédiabolisation à lui tout seul. Et d'autre part, pour insinuer l'idée, dans l'opinion, que le Front National se résume à une affaire de famille avec tous les aspects négatifs que l'on attache à cette dernière caractéristique, évidemment fausse. Comment faire pour que Bruno Gollnisch passe plus souvent dans les grands médias, ainsi que d'autres talents de son parti?
C'est sa radio courtoisie, quand même.
Merci beaucoup à ce téléspectateur des choses aimables qu'il dit.
À cet auditeur.
À cet auditeur.
Moi, je ne le remercie pas parce que...
Il souhaiterait être un téléspectateur, voilà, mais je ne suis pas... je remercie beaucoup Radio Courtoisie de m'inviter, et en particulier Serge Lemekech.
Mais je trouve que dans la dédiabolisation, la concurrence est particulièrement forte en ce moment au sein du Front.
Mais
ça dédiabolise à tout.
Moi, je crois que l'hostilité d'une partie des médias, enfin des médias institutionnels à mon égard, ne vient pas de ce que je pourrais dédiaboliser. Elle vient de ce qu'ils me considèrent comme étant l'un des représentants du diable.
Oui, c'est ça.
De ce que je suis un réactionnaire tranquille, sûr de lui, à défaut d'être dominateur, malheureusement.
Ça ne saurait pas. Ça vient. Ça
moi, je ne le remercie pas, cet auditeur, parce qu'il veut nous ôter le pain de la bouche. Après tout, c'est nous qui sommes là pour tirer les pompes de, de Bruno et toucher un chèque.
Là, vous venez de perdre votre chèque, mon
vieux. Vous avez bien fait de vous taire. Oui.
Non, je crois qu'il y a une hostilité, indiscutable de certains médias à mon égard. Ça fait partie de la vie.
Je crois que
c'est vrai que nous ne sommes pas du même monde. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes méthodes, les mêmes réflexes, les mêmes façons de penser, la même sensibilité. Moi, je suis.
Ils ont des archives aussi. Et moi, j'ai le souvenir notamment d'une émission de télé où vous aviez repris de voler, si j'ose employer ce mot-là à propos de ce personnage, Monsieur Devedjian.
Oui.
Et là, je pense que les gens qui ont vu cette émission se sont dit, alors, Gollnisch, méfie, comme on dit en Corse. Parce que l'animal est redoutable. Et on est prié de monter en haut des gradins. La tête de Devedjian, ça a été un grand moment de bonheur, ça.
Oui,
il était pétrifié.
Monsieur Devedjian, qui au moment des événements de 98, qui nous ont affligé, justement, la scission, participait à un débat sur le Front National et disait que nous étions des gens sans moralité. Je lui ai rappelé deux péchés de jeunesse. Et moi, je n'ai eu qu'à faire une référence allusive.
Oui,
ça suffit à le faire taire.
Oui, oui, c'était un grand moment. Un grand moment. Je voudrais qu'on parle brièvement, si vous le voulez bien, des sondages. Parce que on les voit fleurir et se multiplier. Alors il y a maintenant des sondages sur Internet qui n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est-à-dire en même temps ils paraissent avoir une certaine valeur parce que les chiffres des personnes répondant sont 5, 6, 10 fois, 20 fois plus importants que dans les sondages payants.
Mais ce ne sont pas les échantillons.
Mais c'est pas les échantillons, ce sont pas des panels comme on dit. Quels sont vos sondages à vous ?
Sincèrement, je ne suis pas très doué pour les commentaires de sondages. Les sondages, à notre égard, se sont toujours trompés, et ils s'étaient aussi trompés en 2002. Il faut se rappeler que quelques jours avant le premier tour, on nous donnait à 10 ou 11 %. Je me souviens d'avoir été sur une émission que présidait Yves Calvi en présence de Monsieur Perrineau, et de Monsieur Lesch, qui était le patron, je ne sais plus si c'est d'Ipsos ou bon, et sur le thème qui est le troisième homme, parce que dans les sondages précisément, Jean-Pierre Chevènement avait décroché. Bon. Et on voyait bien qu'il chutait. Et alors, bah, si c'est pas Chevènement, qui est ? C'était au minimum, évidemment, Jean-Marie Le Pen, qui, quoique sous-estimé, avait été durant toute l'année au coude à coude avec Jean-Pierre Chevènement, et souvent le dépassant quand même d'un point ou deux dans presque tous les sondages. Eh bien non, M. Lesch a dit, non, je n'ai pas la troisième personnalité, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Ce en quoi, finalement, il avait raison, puisque Jean-Marie Le Pen est arrivé second. Non, mais c'est pas Jean-Marie Le Pen, non, c'est pas lui, il sera pas en 3, il sera pas en 4, et je ne le vois même pas faire un score à deux chiffres. Autrement dit, il fera moins de 10%. Bon, on sait ce qu'il en a été. Ce qui est grave, c'est que M. Lesch est un professionnel, qu'il est payé pour ça, alors, bien payé, voilà. Et qu'il a, sous sa coupe quantité d'experts, d'agents chargés de recueillir l'information, d'experts chargés de la traiter. Et alors, quand quelqu'un trompe l'opinion à ce point, c'est évidemment très grave. C'est très grave, d'ailleurs, moi je l'ai bien vu dans beaucoup d'élections. Par exemple, bon, la dernière élection municipale à Lyon, bon, les listes que je conduisais ont fait à peu près 10%. On leur donnait, très concurrencés par les listes de Charles Millon, etc. Bon. Mais on leur a donné 3% en début de campagne. Mais si on leur avait donné 10%, je pense qu'elles auraient fait 15 ou 20. Parce qu'il y a évidemment un réflexe très courant qui est celui du vote utile. Alors il faut savoir que, comme le dit d'ailleurs un essayiste qui a publié un livre intéressant qui s'appelle « Voter utile est inutile » et qui n'est pourtant pas de nos idées, mais maître Marc Dugois, voter utile, c'est vrai, c'est le vote le plus inutile. Le seul vote utile, c'est de voter selon ses convictions.
Ce que vous évoquiez à propos des sondages, mensonger, rendu volontairement mensonger.
Oui.
Ça pose une vraie question, parce que quelqu'un comme Jean-Marc Lesch, c'est quelqu'un qui, quand il ne fait pas de sondage politique pour des journaux ou pour des partis, fait des sondages pour des entreprises. Donc, il a des clients qui sont des gens sérieux, qui bâtissent une stratégie commerciale sur les résultats de ces sondages. On peut supposer que si ça dure depuis aussi longtemps, c'est parce que les résultats des sondages effectués par M. Lesch sont fiables. Quand il donne des résultats, quand il donne des sondages politiques qui sont manifestement et grossièrement faux, comme c'est le cas, sur les prévisions, de score du Front National.
Je peux en apporter une preuve au passage.
Ouais.
Serge, j'ai eu en main la preuve du caractère volontaire de ces falsifications. On l'a cité dans le Libre Journal. Souvenez-vous-en, c'était il y a un an et demi ou deux ans. Le CSA avait vendu le même sondage à deux clients marseillais différents,
ouais,
et selon les résultats variaient de 5% selon les clients. J'ai eu l'occasion d'interpeller le patron du CSA, dont le nom m'échappe, dans une réunion publique sur ce point, et sa réponse a été une crise de nerfs, des hurlements et des insultes. Alors je pense que là, on a eu en main la preuve de la volonté de falsification.
Mais je me souviens très bien de cet aspect de l'affaire. Mais ce que je voulais soulever, c'est une question commerciale. C'est-à-dire, Lesch, quand il publie des faux sondages sur le Front National, ou quel que soit Lesch ou un autre, peu importe, quand un patron d'institut de sondage vient à la télévision et dit devant des millions de Français, Le Pen ne fera pas un score à deux chiffres, autrement dit il fera moins de 10%, et qu'à l'arrivée Le Pen fait 18% ou 16%, la contre-publicité pour l'institut de sondage est énorme.
C'est elle est de vrai.
Quand après il va dire à la moutarde Amora, on va vous faire un sondage pour savoir si les gens veulent de la moutarde sucrée ou si on n'en veut pas, les gens d'Amora doivent lui dire, écoutez, attendez les résultats. Alors attendez, je veux aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez vous faire cuire un œuf, on n'a pas besoin de vous, on va faire appel à des gens sérieux, vous êtes des rigolos. Hein, la preuve, Le Pen, vous l'annoncez à 9%, il fait 16%, donc vous êtes des incapables. Combien est-il payé, et par qui, pour prendre un risque financier aussi énorme
combien son entreprise est-elle payée et par qui pour accepter de prendre le risque de perdre des clients commerciaux pour complaire à des clients politiques. Et combien est-il payé, par qui et sous quelle forme? Parce qu'il n'y a pas d'histoire, ce sont des entreprises commerciales. Les gars, ils ont un bilan à présenter à leurs actionnaires. Et à la fin, quand ils vont voir leurs actionnaires en disant bah, « Cette année, on a perdu Amora, on a perdu
Nestlé, on a perdu... »
Non, mais je suis dans
l'hypothèse. Ils devraient perdre, oui.
Ils devraient perdre dans une société démocratique. Serge, ce qui vous... excusez mon insolence, mais ce qui vous échappe, c'est l'aspect totalitaire de la société où nous sommes déjà.
Ça m'échappe pas du tout.
Quand la Pravda imprime « Staline fait lever le soleil », elle se déconsidère et le peuple se révolte en masse contre les bolcheviks.
La Pravda est distribuée gratuitement au peuple. Alors donc, c'est
pas tout à fait ça.
Le problème n'est pas là. Le problème, il est... que le jeu est une complexité extraordinaire. C'est-à-dire, là, on voit qu'il y a véritablement un système de chirajuration. Il s'agit de tromper le peuple et de tromper l'électeur, mais d'une façon particulièrement vicieuse, avec la complicité de tout un système. Et ceux qui tiennent ce système, c'est ceux qui disent à l'Èche, tu peux raconter n'importe quoi sur les sondages Le Pen, à condition de le mettre en bas, parce qu'on on sait bien que la chute est en train de la chute et que ce sera très bon. Et on te garantit que tu garderas tes clients privés, tes clients commerciaux, parce qu'on fera pression sur tes clients commerciaux et on leur expliquera. Et donc ils vont voir les patrons des entreprises qui sont clientes en leur disant... Bon, bien évidemment, vous avez compris que ces sondages sont bidons, mais les sondages pour vous sont sérieux. Et donc là, c'est comme ça que fonctionne ce système. C'est un système de mensonges industriels. C'est un système, je reviens, c'est un système mafieux. C'est une bande de mafieux, exactement comme à Chicago. Il y avait des types qui s'occupaient des laundries, blanchisseries. Il y avait des types qui s'occupaient des speakeasy, des bars, il y avait des types qui s'occupaient des boulangeries, et chacun faisait son boulot, mais c'était pour le compte de la mafia. Eh bien, dans ce système de la mafia, il y a des types qui contrôlent la franc-maçonnerie, il y a des types, des mafieux qui contrôlent les associations d'élus, il y a des types qui contrôlent les banques, il y a des types qui contrôlent les instituts de sondage et qui obéissent aux mots d'ordre qui leur sont donnés par leurs chefs.
Il faut que je corrige mon propos en signalant que nous ne sommes pas encore totalement jusqu'aux oreilles dans une société totalitaire et qu'il existe des conséquences commerciales assez pratiques. Les journaux qui publient depuis des années, des décennies, ces sondages en les approuvant, les renforçant, il plonge. Libération est en train de crever et aux surprises.
Mais le système le
sauve de pub. Et aux surprises, les banques.
Ils vivent des mêmes, ils vivent de pub. Ils ne vivent pas des abonnés.
Non, mais il est tout à fait certain qu'en France, si les échecs intellectuels, moraux, devraient se payer. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est en effet parce que le système est totalitaire. Il est clair, par exemple, que l'ingénieur, je pense, ou l'architecte qui a construit le barrage de Malpasset, je crois, qui s'est effondré à Fréjus il y a 40 ans, à peu près, entraînant dans la mort 500 personnes, on ne lui a certainement pas redonné d'autres barrages à construire. Bon, en dépit du fait qu'après tout, ce n'était peut-être pas les fautes de conception qui étaient à l'origine de ce drame. Mais là, il y a au moins une sanction implicite, professionnelle, immédiate. Tandis que dans le domaine des sondages, mais pas seulement dans le domaine des sondages, dans le domaine politique, les Français sont dirigés depuis 40 ans par deux partis politiques qui alternent au pouvoir, qui placent dans tous les rouages de l'État, de la société politique, économique et médiatique, leurs obligés, les Français zappent de l'un à l'autre et ont bien quand même perçu que dans un cas comme dans l'autre, c'était l'échec. C'était au mieux la gestion de la décadence de leur pays. Eh bien, un certain nombre d'entre eux persistent à croire que la prochaine fois ce sera mieux. Et quand il y a des idées comme celles, comme les nôtres, ou celles que défend aussi, après tout, Philippe de Villiers, bien sûr, Bruno Maigret et d'autres comme cela, eh bien, qui sont portées par nous, un certain nombre de personnes un peu frileuses se prennent à rêver que ça soit porté par d'autres, par ceux qui ont fait le contraire pendant des décennies. Et on voit maintenant, par exemple, certains Français, pas tous heureusement, qui mettent leurs espoirs dans la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy, qui est l'homme qui a fait abroger l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers. Il y a 2 ans, j'étais là, je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Mais bon, il faut espérer quand même que les fautes morales se paieront un jour. Et en particulier, c'est vrai, ces instituts de sondage devraient être définitivement déconsidérés, c'est clair.
Voilà, ben, je vous remercie, Bruno.
Ah, il y a encore peut-être oui, une dernière question. Monsieur, suite aux déclarations que vous venez de faire sur la place des gens d'origine étrangère au Front National, je voudrais vous exprimer une question. Je suis né à l'étranger, j'ai 36 ans, j'habite depuis 12 ans en France, pays que j'adore, et pour lequel je serais même prêt à me battre si besoin pour qu'il reste ce qu'il doit être. Bon, ai-je une place au Front National? C'est une question de M. Gutiérrez et Trimino. Alors je dis à M. Diego Gutiérrez qu'il a bien sûr une place au Front National. Alors, de deux choses l'une, où il a, je suppose qu'il est d'origine espagnole, hein, on peut le penser, bon... alors je lui dis deux choses d'une, où il a conservé, ce qui est parfaitement honorable, la nationalité espagnole, ben, il fait partie des étrangers qui aiment la France, qui respectent ses lois, qui sont nos hôtes, et il n'y a pas de problème à cet égard, notamment avec à l'égard de nos hôtes ressortissants de pays européens. À ce moment-là, il peut entrer dans il peut entrer dans l'association que nous avons formée des amis du Front National qui sont de nationalité étrangère. Ou bien Monsieur Gutiérrez a acquis la nationalité française, auquel cas nous le considérons fraternellement comme un des nôtres et il peut rejoindre les rangs du Front National absolument sans problème.
Vous lui avez répondu franco.
Voilà.
Serge, un auditeur qui signe Vieux Grizzly,
oui,
vous envoie la recette pour Serge Lebekech qui n'arrête pas de tousser ci-dessous,
oui,
la recette du grog. Et il conclut enfin, mais oui. Que fait Madame de Bekech? C'est
elle
un scandale.
Elle m'interdit de boire de l'alcool, comment voulez-vous que je me soigne avec du grog?
Alors j'ai aussi c'est même pas une question, s'il y a quand une émission pour la Corée du Nord, c'est le reste je vais pas le lire parce que
on n'a pas le temps.
J'ai en des termes injurieux, voilà, c'est parce que j'ai pris la défense d'un certain nombre d'inculpés serbes devant le tribunal pénal international de La Haye. Je maintiens intégralement.
Bravo.
On ne peut pas réduire la question nationale serbe à la question de la survivance du communisme dans ce pays, et je le dis d'autant plus que j'ai été un défenseur à l'époque de l'indépendance de la Croatie.
Merci Bruno Gollnisch.
Merci à vous.
Je dirais vive la Serbie, monsieur.